Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
From out of the blue comes the most controversial movie of the year. Dennis Hopper, the man who defined the 60s with Easy Rider, now takes on the 80s. Out of the blue.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale cinéma US avec deux films sortis chez Rimini, Dans la souricière de Norman Panama et Boxcar Bertha de Martin Scorsese. Quatre films sortis chez Artus Film, Le démon de la chair d'Edgar George Ulmer, Ma Barker et son gang de Bill Karn, Les rôdeurs de l'aube de Tim Whelan, Daniel Boone, L'invincible trappeur d'Albert C. Gunaway et Ismaël Rodriguez. On causera également du coffret Outside Maurice Engel et Russ Orkin, paru chez Carlotta, et Out of the Blue de Dennis Hopper, qui est sorti chez Potemkin. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Thierry Vidot et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer cinéma US, je suis accompagné aujourd'hui de mes chroniqueurs les plus états-uniens, de Picardie en tout cas, voilà, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, également dans ce studio, celui qui chaque nuit de pleine lune se transforme en loup-garou Picard et enregistre l'émission à l'écoute du cinéma diffusée sur RCA, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Gégé et bien évidemment bonjour à toutes.
L'ami Damien Demey, qui est à nos côtés, je fais des rimes comme ça, a vu un film avec Richard Widmark et Lee Jacob, et aussi Tina Louise, hein, belle rousse flamboyante d'ailleurs. C'était comme ça, une petite. Je me permets une petite digression. Pour un film de 59 qui s'appelle Dans la souricière, The Trap en VO, qui vient de sortir dans un très beau combo Blu-ray DVD chez Rimini Éditions. Que t'a inspiré l'ami Richard Widmark ?
Il m'a inspiré de la chaleur, de la transpiration, du manque d'eau, de l'encerclement. J'étais vraiment pris au piège pour le coup. Alors, dans La Souricière, nous raconte l'histoire d'un avocat, Ralph Anderson, qui a fait de la prison et qui retourne pour la première fois voir sa famille depuis qu'il est sorti. Il habite dans une petite ville dont son père est le shérif et son frère est dans la police. Il demande à son père une faveur, c'est-à-dire que la justice détourne le regard le temps qu'un groupe de gangsters passe dans la ville, fasse ses affaires et reparte. Le problème, c'est que son frère se met à la situation, reconnaissant le chef du gangster qui est recherché, et la situation dégénère. Il se retrouve donc avec son frère à escorter le chef de gang qui vient d'arrêter et qui sont prêts à tout pour le livrer à la justice. Alors, comme je l'ai dit, c'est un film où on sent qu'il fait très chaud. C'est vraiment bien rendu à l'image. Il y a un côté western qui fonctionne beaucoup et qui est très appréciable. Et je trouve la résolution de héros très intéressante parce qu'au bout d'un moment, dans ce film, il est un peu dans ce côté marche ou crève, où finalement le seul moyen de faire le deuil d'un des membres de sa famille, c'est d'aller jusqu'au bout.
Ouais, c'est un film vraiment intéressant. Hein. C'est une série B. Hein. C'est, comme tu dis, une sorte de western moderne, matinée de polar, voilà, de film d'action, avec un Richard Widmark qui est très bon, comme d'habitude, parce que c'est Richard Widmark. Hein. Alors, le méchant, c'est Lee Jacob, aussi, hein, qui fait le grand chef mafieux. Alors Richard Widmark, à l'époque, il est libéré de son contrat avec la Fox. Et donc, il devient un acteur indépendant. Il crée sa société de production. Et ça, c'est sa première production, en fait, dans La Souricière, The Trap. Réalisé par Norman Panama, qui n'est pas un réalisateur qui a laissé une empreinte extraordinaire dans l'histoire du cinéma. Mais effectivement, cette histoire de... Alors, tu dis, bon, il a été en prison. Enfin, il aurait été rayé du barreau. C'est quand il était jeune, en fait. Il a fait une maison de correction parce qu'il avait volé une voiture. Enfin, bon, voilà. On l'avait retrouvé dans une voiture. Bon. Et effectivement, il n'est pas revenu voir sa famille depuis 10 ans. Donc, il n'est pas très bien accueilli. Son frère est alcoolique. Et puis, son frère est marié avec Tina Louise, qui fait tourner un peu toutes les têtes, qui, en fait, était l'ancienne maîtresse de Richard Widmark. Et de toute façon, on comprend tout de suite qu'elle tombe sous le charme de Richard Widmark, évidemment, dès qu'elle le voit revenir. D'ailleurs, on peut penser qu'il est revenu un peu pour elle aussi. On ne sait jamais vraiment, parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne sont pas trop manichéens. C'est ça qui est intéressant. On ne sait pas trop ce qui les anime, quelles sont leurs motivations. Effectivement, bah, du coup, ils se retrouvent traqués. Traqué par tous les mafieux, puisque ce que tu n'as pas dit, mais ce qui arrive très vite dans le film, c'est que le père, en fait, se fait tuer, voilà, par les mafieux. Et du coup, Richard Widmark change du tout au tout, voilà, et décide de livrer le mafieux à la justice, quoi. Voilà, sauf que, évidemment, ils ont 5 heures de route à faire et ils sont pourchassés par tous les mafieux du coin. C'est un film assez haletant. La péripétie avec l'avion à la fin est un peu. Un peu tiré par les cheveux quand même, voiture contre avion. Je savais pas que la voiture pouvait gagner, mais bon, c'est Richard Widmark qui conduit, donc faut pas déconner, quoi. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Comme tu le dis, c'est un film où il fait chaud, les corps sont lourds, écrasés par la chaleur, et bon, la mise en scène est fonctionnelle, mais les acteurs sont très bons. C'est vraiment le prototype de la série B, fort sympathique. Ça dure même pas 1h30, je crois. C'est très très efficace, ça va à l'essentiel, on taille dans le gras et on passe un bon moment avec des bons acteurs. Richard Widmark contre Lee Jacob, ça le fait, quoi. Voilà. Toujours chez Rimini, Thomas, le film d'un réalisateur. Italo-américain vaguement connu, produit par Roger Corman, qui s'appelle Boxcar Bertha, et ce réalisateur s'appelle Martin Scorsese, il me semble bien. Tu connais ça, Thomas, toi ?
Boxcar Bertha, c'est le deuxième long métrage de Martin Scorsese, et avec la belle Barbara Hershey dedans, qui était quand même assez jeune à l'époque, elle avait 22-24 ans, je ne sais plus. Elle avait déjà fait pas mal de trucs avant, hein. Mais c'est un premier grand rôle pour elle, hein, je crois. Hein. Donc Boxcar Bertha, c'est une jeune femme dont le père meurt dans un accident d'avion durant la Grande Dépression. Et elle va rencontrer Elle va rencontrer David Carradine et ensemble ils vont piller les trains. Ils vont piller les trains pour se ramasser du pognon, quoi, parce que c'est la Grande Dépression, puis tout le monde est fauché. Et ils vont s'attirer, bien évidemment, l'inimitié des compagnies ferroviaires qui vont lancer à leur trousse des policiers et autres chasseurs de primes. Bon, c'est une petite production, hein, c'est une production Roger Corman. Moi, je trouve pas que ce soit un grand Scorsese quand même. Hein. Je trouve que le film a des problèmes de rythme. Il est un peu, on voit que c'est un petit budget. C'est pas inintéressant du fait de son sujet est plutôt pas mal. Son personnage de Oscar Berta est vraiment intéressant aussi. Mais c'est un film qui, je trouve, a des petits problèmes de rythme. Mais décrit bien l'époque de la Grande Dépression, puis cette façon que les gens ont dû faire pour s'en sortir, notamment pas piller les trains, puis aussi en ce qui concerne le personnage de Oscar Berta, la prostitution, malgré elle, hein, vu qu'elle est prise par une madame qui, une fois qu'elle se rend compte qu'elle est dans une maison close, elle est trop tard. Hein. Et donc c'est un film intéressant en ce sens-là, mais moi, je trouve que c'est un peu surestimé quand même.
Vous écoutez Culture Projet. Thomas, on dit aussi que ce scénario de Boxcar Berta serait inspiré d'un livre qui s'appelle Sister of the Road. Et on dit, mais toi tu vas nous dire le contraire, que ce serait inspiré de la vie de la véritable Berta Thompson. Mais d'après toi, l'histoire n'est pas aussi belle, Thomas.
Non, apparemment, la femme de Roger Corman à l'époque a dit qu'elle avait rencontré le véritable personnage qu'on voit dans le film, qu'elle avait rencontré dans un hôtel à New York, qu'elle avait négocié avec elle à travers la porte, qu'elle avait refusé de lui ouvrir la porte, etc. Mais en fait, il se trouve que c'est faux. Enfin, apparemment, ça serait faux. Hein, il y a une version qui dit que c'est faux, que c'est effectivement une œuvre de fiction, le roman original. Une œuvre de fiction, mais qui s'inspire de trois femmes différentes qui ont vécu pendant la Dépression.
Alors, tu disais aussi, Thomas, que le film est un peu surestimé. Moi, je pense que le film jouit d'un certain culte parce qu'il est produit par Corman, parce qu'il s'inscrit dans un cycle aussi de films de Corman avec Bloody Mama, par exemple, qui décrit ce cycle des grands personnages. Il y a je crois que le Dillinger de Milius aussi est produit par Corman, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises.
Ouais, je ne sais pas.
Voilà. En tout cas, ça s'inscrit dans une suite de films qui décrivent des grands personnages de la culture populaire des années 30 aux États-Unis. Hein, voilà. Et puis surtout, c'est réalisé par Scorsese. Donc forcément, le film a acquis un culte avec le temps. Alors après, déjà, je trouve que le film a quand même quelques qualités. Alors, c'est un tout petit budget, hein, c'est une série B, voilà, tu l'as dit, c'est fauché. C'est quand même bien troussé parce qu'on sent que Scorsese, il veut combler son manque de budget par des effets stylistiques, quoi. Il essaye pas mal de choses, il y a des travelling rapides, il y a des ralentis, il y a des choses. Il essaye des choses, il tente des trucs, voilà, pour rendre son film un peu plus dynamique. On voit qu'il est un peu conscient par moment, parce que bon, il est brillant, Scorsese, donc il est conscient qu'il y a des trucs qui vont pas, donc il essaye de faire un peu d'esbrouf, faut dire les choses, quoi. Voilà, il essaye de faire un peu d'esbrouf. Et puis moi, je trouve, alors il y a une super distribution, alors il y a les deux Carradine, John et David Carradine, il y a Barry Primus, il y a Bernie Casey, très bon aussi, et puis tu l'as dit, il y a Barbara Hershey, elle irradie quand même sa présence dans le film, on voit que c'est pas une actrice comme les autres. C'est-à-dire, alors il y a sa sensualité qui est là, qui est très présente dans le film, qui est écrasante, mais il y a un truc en plus. On voit que c'est une actrice qui a une vraie présence à l'écran. D'ailleurs, elle tournera pour beaucoup de grands réalisateurs avant de tomber un peu dans l'oubli, mais voilà. Il me semble qu'elle a tourné chez Woody Allen. C'est pas un grand réalisateur, c'est Sidney Fury, mais dans L'Emprise, elle livre une prestation quand même saisissante. Voilà, donc c'est une actrice qui va connaître une grande carrière, mais qu'on a un peu oubliée aujourd'hui. Et qui, là, effectivement, par contre, elle trouve un de ses rôles les plus intéressants. Parce qu'un premier rôle féminin de cet acabit, en fin de compte, c'est malgré tout assez rare. Scorsese aimait bien donner des premiers rôles féminins. Scorsese, qui était un réalisateur qu'on a souvent accusé un peu d'être un réalisateur qui mettait en avant les personnages de mâles puissants, mais il mettait aussi en fait des personnages de mâles qui étaient en fait des mal insérés dans la société, qui étaient des marginaux, quoi. Voilà, a aussi souvent donné des premiers rôles féminins en fait, parce qu'en 72, là, donc il donne ce rôle à Barbara Hershey pour Boxcar Bertha. Il donnera à Ellen Burstyn un très beau rôle aussi dans Alice n'est plus ici, qu'il fait, je crois qu'il le fait entre Mean Street et Taxi Driver. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse, le destin de la femme américaine. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard, le temps de l'innocence, tout ça, on a des personnages, et dans Casino, le personnage de Sharon Stone aussi. Donc c'est Scorsese, je comprends ce qui a pu l'intéresser dans ce film, puisque lui, il est vraiment, comment dire, passionné, hein, par les personnages de femmes fortes. Alors, en parlant de femmes fortes, on va rester sur un personnage de femme, qu'il faut pas croiser, quoi, parce que malgré qu'elle soit très belle, si elle a décidé que vous alliez tomber entre ses griffes, ça va pas bien se passer pour vous. Je veux bien sûr parler de la Jenny, la fameuse Jenny incarnée par Eddie Lamarr dans Le Démon de la chair de Edgar George Ulmer, qui est sorti depuis peu chez Artus Film, avec également d'ailleurs George Saunders. Le démon de la chair, que t'inspire ce démon de la chair, mon cher Damien ?
Le démon de la chair, ou The Strange Woman dans son titre original, est un film de 1946 en noir et blanc. On retrouve au casting George Saunders et la grande Eddie Lamarr, comme tu l'as dit, qui a le rôle principal dans le film et qui joue également en tant que productrice. Le film commence lorsque c'est une petite fille et on voit qu'elle a déjà un comportement dangereux et autoritaire. De plus, elle est élevée par un père alcoolique et violent qui est pauvre et n'a aucun rêve. Et à partir de ce moment-là, la petite jeune fille va avoir un but dans la vie, c'est finalement de s'élever hiérarchiquement et surtout d'avoir beaucoup d'argent. Devenue jeune femme, elle est machiavélique et elle manipule tout le monde avec sa beauté pour parvenir à ses fins. On voit ici le concept femme fatale, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on commence à s'intéresser à l'héroïne dès son enfance, qu'on voit généralement peu dans ce type de film. Ce qui est intéressant, c'est que tous pensent à chaque fois la duper d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils réussissent à la manipuler elle, alors qu'avec son jeu, elle obtient exactement ce qu'elle veut. Par exemple, le moment où on la propose de la marier à l'homme le plus riche de la ville pour la protéger elle-même, il y a ce côté d'hommes qui décident entre eux que c'est le mieux pour elle et qui sont contents parce que comme ça, ils vont pouvoir... le riche va pouvoir avoir une femme.
Et pas n'importe quel homme. Le plus gros commerçant de la ville... qui d'ailleurs manie bien sa barque parce qu'il est amoureux d'elle depuis toujours, le juge, un juge, et un homme d'église. Donc en fait, ce sont les figures tutélaires de la ville, dans une ville où, c'est un des, ce qui explique aussi l'histoire du film, c'est un point important de l'histoire du film, il n'y a pas de police. Donc c'est vraiment eux, les trois personnages principaux de la ville.
Et du coup, ces trois hommes décident finalement de son avenir, et il y a quelque chose d'assez ambigu avec c'est ce qu'il faut faire, mais en même temps, ça les arrange un peu, alors qu'elle, c'est justement ce qu'elle veut, être mariée à quelqu'un de riche pour pouvoir utiliser son pouvoir et son argent et se l'approprier. Et tu disais qu'il n'y a pas de police, mais ça mène à des scènes incroyables durant le film, notamment la scène d'émeute, ou alors une autre scène qui est un assassinat qui a lieu dans des rapides, ou encore à la fin, une scène qui se passe avec la foudre, qui sont des scènes qui sont assez remarquables à l'intérieur même du film. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à travers tout le film, elle a toujours ce qu'elle veut, sauf à la fin où elle désirait un truc et elle ne l'a pas. Et à partir de ce moment, on voit qu'ils essayent de creuser le personnage parce qu'elle a l'air un peu déboussolée, même si finalement, cette remise en question ne dure pas longtemps. I gotta be near you. I spent my money and I took.
vous écoutez Culture Prohibée spécial Cinéma US. Le démon de la chair, c'est un film, c'est vraiment un très bon film. C'est vraiment, c'est à la croisée. Ça se situe, on va dire, avant la dépression. C'est au moment où c'est le début des années 1900. Il n'y a plus vraiment de cow-boys. On est quand même. Il y a le chemin de fer qui arrive, qui se développe encore. On est dans une période un peu florissante, en tout cas pour une certaine partie de la population, et en particulier pour la petite bourgeoisie dont fait partie le personnage joué par Eddie Lamarr, Jenny. Puisqu'elle épouse ce monsieur Poster, je m'appelle monsieur Poster, qui est le grand mania de la ville, quoi. Voilà. Alors le film est intéressant à plusieurs titres. Le film a un seul défaut, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais Eddie Lamarr est pas une grande actrice. Elle était considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. C'est aussi une femme brillante, puisqu'on en avait déjà parlé dans l'émission. Elle a inventé le Wi-Fi, elle a inventé un procédé pour détourner les missiles ennemis. C'était une scientifique brillante qui a eu une vie incroyable. Voilà, on en avait parlé à l'occasion de la sortie d'Extase. Elle avait déclenché le scandale en jouant nu très jeune dans un film qui était un peu une sorte de... Voilà, qui reprenait un peu... c'était un peu la même histoire que l'amant de Lady Chatterley, quoi. Il y avait une question de bestialité, de désir, d'éveil au sexe, qui est un film qui avait fait un gros scandale à l'époque. Et elle s'était enfuie de manière complètement rocambolesque. Donc, c'est une femme extraordinaire qui a une vie extraordinaire. Mais là, elle arrive au bout de son contrat avec la MGM, et la MGM n'a pas réussi à faire d'elle une star. Elle n'a pas réussi à s'imposer en tant que star, parce que comme actrice, elle est un poil... limitée. C'est une bonne actrice, mais c'est pas une grande actrice. C'est-à-dire qu'on peut effectivement imaginer le même rôle qu'aurait été donné à Bette Davis, par exemple, à Joan Crawford, à d'autres actrices, qui auraient très certainement donné une dimension encore plus puissante à ce film. Voilà. Mais c'est vrai que le film regorge de scènes extraordinaires. Je ne vais pas redire ce que tu as dit, la scène de la foudre, tout ça et tout, et de scènes particulièrement malaisantes. Il y a quand même une scène incroyable où elle a manipulé un homme, qui est cet enfant qu'elle maltraite depuis... Enfin, qui est celui qu'elle maltraite depuis l'enfance. Il est pendu dans la pièce, et à côté, elle fait l'amour avec... au même endroit, elle fait l'amour avec l'amant de sa meilleure amie. Enfin, c'est carrément glauque à mort. Enfin, franchement, c'est gonflé, quoi. C'est Edgar George Ulmer. Edgar George Ulmer, c'est noir de chez noir, quand même, ça rigole pas beaucoup. Et en fait, d'ailleurs, le seul personnage vertueux du film, c'est le personnage de George Sanders, qui est le seul homme bon du film, même si lui-même n'est pas clair sur tous les points. Enfin, en tout cas, c'est un film très intéressant, d'autant plus que cette femme fatale n'est pas non plus manichéenne totalement, c'est-à-dire qu'elle a des failles et elle a aussi des circonstances atténuantes. Voilà. Et d'ailleurs, au début, on est un peu surpris quand elle devient, quand elle est cruelle par instant. Et elle a aussi des fragilités. Ça, c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon film. C'est un bon film. C'est pas le meilleur film d'Edgar George Ulmer, mais c'est un bon film. Autre film sorti parmi la collection des classiques de chez Artus Film, qui est un film qui est, ma foi, une bonne surprise. C'est Ma Barker et son gang de Bill Carne avec Lauren Tuttle. Alors Lauren Tuttle, qui est la grande star du film, hein, qui... Alors, elle a joué chez Stanley Donen, chez Hathaway, chez Hitchcock, chez Orson Welles. Mais là, elle trouve son rôle, quoi. C'est le rôle de sa vie, quoi. Elle est Ma Barker, alors dans un film réalisé de manière assez sèche, assez tendue, par Bill Carne. Et pourtant pas un metteur en scène dont j'attendais grand-chose. J'avais déjà vu des trucs assez laborieux de Bill Carne. Et là, c'est un film très étonnant, particulièrement violent, ce film de 1960, particulièrement violent, et Lauren Tuttle est complètement habité par son rôle, et moi je vous conseille vivement ce film, alors pour Lauren Tuttle, et pour son côté brutal, quoi. Il y a des moments, le film s'engage dans des excès de violence qui sont très étonnants pour un film de 1960, d'ailleurs... Le film s'ouvre sur une scène d'immolation et un cri qui va vous marquer, quoi, si vous voyez le film. Et puis, c'est un drôle de film. C'est vraiment un drôle de film. Et je peux vous dire que quand Ma Barker, elle prend la sulfateuse, ça rigole pas, quoi. Ça fracasse dur, voilà. Donc, je vous conseille vivement ce film de Bill Kahn, ce polar, une sorte de néo-noir de Bill Kahn, qui est vraiment, vraiment très enthousiasmant. Alors, tourné quelques années avant, en 1955, il y a un film avec une vedette qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, une vedette du western, surtout, c'est Randolph Scott, et qui est une vraie vedette aux États-Unis, et qui est dans cette collection des grands classiques d'Artus Film, et que toi tu as vu, Damien, qui s'appelle Les Rôdeurs de l'Aube.
Les Rôdeurs de l'Aube de Tim Whelan suivent parfaitement bien Ma Baker, vu que ce sont tous deux des histoires inspirées de personnages ayant existé. Donc, comme tu as dit, c'est un film sorti en 1955, et on suit l'histoire des frères. Enfin, on suit l'histoire. On se retrouve confronté aux frères Renault, qui sont des braqueurs de train et de banque, qui sèment un peu la pagaille dans la ville dans laquelle ils se trouvent. On est au sud de l'Indiana en 1866. Les locaux ferment les yeux sur leurs actions en échange de quelques commissions. Et un homme, James Barlow, se retrouve impliqué dans une mission dans laquelle il doit rejoindre le groupe pour finalement permettre son arrestation. Il parvient en flirtant notamment avec la sœur des frères Renault. C'est un film, donc j'ai dit, qui s'inspire de faits réels, et c'est intéressant vu que le film commence et s'achève justement avec des écritures déroulant à l'écran, mais vraiment sur un paysage de Far West. Et aussi pendant le film, il y a cette façon de faire intervenir souvent les coupures de journaux pour mettre en avant un fait qui s'est passé, comme un braquage ou un meurtre. C'est un film que j'ai trouvé assez simple, mais qui, je trouve, a une morale assez trouble, finalement, avec sa fin où les événements conduisent les frères Renault à se faire arrêter, et la façon dont c'est mis en place, on ne sait pas trop si, justement, enfin, à mon avis, il y a une volonté de glorifier, finalement, ces bandits qui participent un peu au côté rôle américain, mais la façon dont c'est fait est très perturbante, je trouve.
Ouais, c'est un film plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est un film dont la fin est assez troublante. Voilà, c'est une petite série B, hein. C'est pas un grand classique, mais c'est un film qui a une fin assez troublante, effectivement. Alors, autre film qui s'inspire de personnages réels, c'est Daniel Boone, l'invincible trappeur, réalisé par Albert C. Gunaway et Ismael Rodriguez, avec Bruce Bennett, dans le rôle donc, de Daniel Boone. Et puis Lon Chaney Jr. dans le rôle d'un grand chef indien. C'est un film de 56, c'est un film très court, hein, il fait 1h15. Et effectivement, bah, ça s'inspire de, des mésaventures de Daniel Boone. Alors, ça raconte l'histoire d'un groupe de pionniers à la fin du 18e siècle qui s'installe dans le Kentucky avec le soutien du célèbre trappeur, donc Daniel Boone. Et bah, les Indiens ne vont pas être vraiment d'accord. Et mal conseillé par un Anglais, vindicatif qui déteste Boone, ça va pas bien se passer, quoi. Voilà, vous l'avez compris, ça va être un peu tendu, même si Daniel Boone entretient de longue date des bonnes relations avec Blackfish, le grand chef Shawnee, puisque c'est la tribu des Shawnee, et ils vont tenter de mettre un terme au massacre des colons. Alors, Daniel Boone, c'est véritablement une légende aux États-Unis. Personnellement, avant de voir ce film, je connaissais vaguement le personnage de Daniel Boone. Il est considéré comme vraiment un grand héros aux États-Unis, hein, et comme un personnage important dans l'histoire de la colonisation de l'Amérique du Nord. Et par exemple, il inspire James Fenimore Cooper, le créateur du dernier des Mohicans. Alors bon, bah là, il est interprété par Bruce Bennett, qui est un comédien qui est plutôt bon. En face de lui, Lon Chaney Jr., bon, bah, qui est un comédien... j'ai toujours eu un peu de mal avec Lon Chaney Jr., hein, je préfère le père. Alors, c'est le film que je trouve quand même le moins bon là, de la salve, de tous ceux qu'on a chroniqués. C'est un film qui a un côté presque naïf, hein, voilà... presque archétypal, un discours d'un autre temps. Enfin, voilà, c'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit, oui, ça a le charme de son époque. mais bon, la vision de la colonisation, enfin, on n'est pas chez Del Merdevs, quoi. On n'est pas chez, voilà, dans les westerns les plus ambigus, là, on est vraiment dans quelque chose, hein, une sorte de véhicule à la gloire de Daniel Boone. Bon, qui n'a rien à voir avec le comique français, d'ailleurs. Je l'ai faite, désolé. Et bon, c'est un film moyen. Ça se regarde, attention, hein, c'est pas un film du tout mauvais. C'est juste un film assez plat, en fait. On l'a vu, c'est, voilà, puis après, on l'oublie. Je conseillerais plutôt les trois autres de la salve qui sont plus importants pour moi, avec effectivement le film dont tu as parlé, Le Rôdeur de l'Aube, le Ma Barker aussi, qui est très bon, et puis évidemment le Edgar George Ulmer, qui est un petit classique. Écoutez Culture Prohibée. On reste aux États-Unis pour aborder un film très très important, enfin des réalisateurs très importants dans l'histoire du cinéma tout court, et qui sont des complètement méconnus, en fait, mais alors vraiment. Et c'est un couple composé de Maurice Engel et Russ Orkin, et c'est un couple de photographes américains. Donc, ils vont faire 4 films. Un film en 1953 qui s'appelle Le Petit Fugitif. Un autre, Lovers and Lollipops, en 1955. Wailing on Babies, en 1958. Et I Need a Ride to California, en 1968. Ils ont beaucoup de mal à monter. C'est pour ça qu'il est tourné beaucoup plus tard. Et en fait, ce sont des autodidactes. Ils vont se lancer dans le cinéma comme ça. Voilà, ils vont faire ce petit, fameux Petit Fugitif qui s'adresse plutôt à un public familial. C'est pas des réalisateurs, enfin, au départ, c'est des photographes, ils n'avaient pas de visée autorisante, mais il se trouve qu'André Bazin va voir Le Petit Fugitif. Je ne sais comment, il va voir Le Petit Fugitif, ce film de 1953, qui raconte l'histoire à Brooklyn dans les années 50 d'un petit garçon, Joey, qui va se retrouver, lâché comme ça au milieu du monde des adultes, dans les rues. Alors c'est son frère qui est censé veiller sur lui, mais son frère lui fait un coup de Trafalgar, il lui fait croire qu'il prend un coup de carabine. Voilà, il joue à ça avec ses copains, mais lui il le prend au sérieux, le gamin, et il s'enfuit, c'est un tout petit gamin, hein. Et effectivement, on va voir un film assez extraordinaire, puisque c'est un film presque documentaire et en même temps très découpé, très travaillé, avec, on est dans la grande tradition du photoreportage américain aussi, donc il y a une vraie qualité dans la plastique, dans le choix des cadres et tout ça, pourtant c'est un tout petit film tout petit film. Bon, ça dure 1h20, ça passe tout seul. Et c'est vraiment le parti pris des réalisateurs, c'est de suivre le gamin en le laissant improviser, quoi. Et donc, ça donne vraiment quelque chose d'assez particulier. Et c'est... on parlait dans une autre émission de Soy Kuba. Là, on est pareil, on a une caméra virevoltante qui bouge énormément. Et en fait, c'est lui qui l'invente. C'est Engel, enfin, c'est les deux, Maurice Engel et Russ Sorkin, qui inventent une caméra. Ils modifient une caméra 35 mm pour la rendre plus légère et mobile. Ils inventent un peu la Steadicam avant l'heure, en fait. C'est rigolo. Et c'est vraiment... assez chouette, et quand André Bazin voit ça, il le fait voir à Truffaut, il le fait voir voilà, à l'équipe des Cahiers du cinéma, et c'est le film qui va influencer énormément François Truffaut pour les 400 coups. Alors, voir les deux films à la suite, c'est frappant. Voilà, c'est frappant. Moi, je ne connaissais pas l'existence du travail de Orkin et Engel il y a encore 5-6 ans, c'est... Comment dire, je fais un petit coucou à Émilie, si elle écoute l'émission, qui m'a fait découvrir ce film, qui m'en a parlé, je ne connaissais pas. Je lui ai dit, comment ça, un film qui a inspiré la nouvelle vague, et ça, je ne connais pas, bon. Et donc là, on découvre, dans ce coffret édité par Carlotta, on découvre donc leurs 4 films. Alors, des récits assez simples, hein, puisque, comment dire, dans Lover and Lollipops, l'histoire est simple. Anne, une jeune veuve, vit à New York avec sa fille de 7 ans, Peggy. Elle s'ennuie pendant les vacances et sa mère se met à fréquenter Larry, un ami de longue date revenu d'un séjour en Amérique du Sud. Et la petite fille, c'est ses relations un peu avec ce nouveau père de substitution. Voilà, comment ça va se passer. Wedding and Babies, tout est dans le titre. Hein, c'est le nom d'un magasin de photographie spécialisé dans les mariages et les naissances. Et on suit un peu la vie dans ce magasin, d'autant plus que l'une des jeunes femmes qui y travaille a envie de fonder une famille. Et puis, I Need a Ride to California, hein, c'est un film plus tardif, ils ont eu beaucoup de mal à monter. La version proposée est en 4K. C'est l'histoire d'une jeune Californienne venue à New York pour vivre la révolution hippie. Et c'est très intéressant parce qu'il y a le côté documentaire, mais c'est jamais autorisant. Donc on suit, ça décrit l'évolution de la société américaine du début des années 50 jusqu'à la fin des années 60. C'est assez étonnant, il y a un bonus d'Alain Bergala qui explique bien ça. C'est le chaînon manquant, en fait, entre le néo-réalisme et la nouvelle vague. C'est entre les deux. Et du coup, ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à voir le travail de Maurice Engel et Russ Orkin, paru donc chez Carlotta. C'est passionnant.
Did you know my son? Did you know my son? I ride the bus with my son. Remember my son? Remember my son? Now, am I gonna have to meet every fucking asshole like you, man? Look, I'm an asshole. You see this? You see me? You see them? But I'm not a motherfucking dumb asshole. Because there's enough here for 2 drinks. Now, you sit down. You sit down and have a drink.
On termine cette émission avec Out of the Blue, un drôle de film de 1980, réalisé par Dennis Hopper, avec une actrice, Linda Mons, qui irradie et qui connaîtra une carrière très courte, qui a une vie très courte aussi, qui va démarrer très très fort, hein, puisque vraiment, cette jeune femme, elle est véritablement marquante, iconique. Dès qu'on la voit dans le film, on tombe sous son charme tout de suite. Son début de carrière, c'est simple, c'est Les Moissons du Ciel, Les Seigneurs. Ce film-là, Out of the Blue, disons que dans la fin des années 70, début des années 80, elle a une progression incroyable et puis elle va disparaître des écrans petit à petit et elle meurt à 58 ans en 2020. Alors certains réalisateurs comme Harmony Korine se rappellent d'elle, font appel à elle par exemple dans Gumo, voilà, mais sinon elle a complètement disparu. C'est inexplicable, alors j'en sais pas plus, hein, voilà, je vous avoue que je ne me suis pas plongé dans une biographie la concernant, mais c'est inexplicable tant là elle développe un talent incroyable. Elle s'appelle CB dans ce film. Et en fait, elle accompagne son père, qui est joué par Dennis Hopper, donc le réalisateur et acteur dans le film, qui est camionneur. Et puis, elle était avec son père lorsqu'il a percuté un bus scolaire. Et il a tué donc beaucoup d'enfants ce jour-là. Et il va en prison 5 ans, il sort de prison. Il retrouve son épouse, qui est une droguée, une junkie, un personnage terrible dans le film. Surtout qu'il y a des scènes de shoot, on se demande si c'est des vraies scènes de shoot ou pas. Enfin, c'est glauque, mais glauque. Enfin, Dennis Hopper, ça pouvait être glauque hein, quand même. Hein. Lui revient. C'est pareil, bon, est-ce qu'il a une relation incestueuse avec sa fille? On peut sérieusement se poser la question, surtout que c'était le scénario de base, hein, normalement, mais Hopper a un peu perverti ce scénario, il en a fait autre chose. C'est ce qu'on était plutôt sinon dans le mélodrame social, et ça, Hopper, il s'en fout un peu, quoi. Voilà. On va rappeler le contexte, hein, mais c'est quand même le film qui fait partie d'une trilogie avec Easy Rider, The Last Movie, donc Out of the Blue. C'est une trilogie un peu sur l'histoire de l'Amérique à l'époque et des paumés, des laissés pour compte aux États-Unis. Bon, c'est pas, ça respire pas la joie de vivre, quoi. On peut pas dire ça, on peut dire ça comme ça. Dennis Hopper est très nihiliste. Après, il fera un cinéma plus conventionnel, quand même. Hein, voilà, intéressant, mais plus conventionnel. Et là. Ce père sort de prison, revient dans la famille. La jeune fille est devenue une jeune femme hein, qui est punk, en fait, qui veut vivre à fond. Et elle a, comment dire, le père revient, la mère s'est choisi un amant, un barman un peu étrange, voilà. Et en fait, c'est l'histoire de tous ces paumés comme ça, de tous ces losers, en gros, hein, voilà, qui vont essayer de, à nouveau de former ce qui ressemble à une famille. Évidemment, une famille ultra dysfonctionnelle. Et donc, on va avoir un film de Dennis Hopper qui était sorti chez Back Film à une époque, mais qui est sorti genre l'espace de 2 semaines. Donc, je me rappelle, je m'étais précipité sur la copie du DVD parce que c'est un film dont j'avais beaucoup entendu parler. Il a eu un titre aussi d'exploitation en France qui était Garçonne parce qu'elle a un côté androgyne, l'actrice principale. La magnifique Linda Mons qui irradie le film. Elle est extraordinaire. Hein. Cette gamine, elle est sensationnelle dans le film. Et en fait, peut-être qu'ils n'avaient pas les droits, je ne sais pas, mais le film a tout de suite disparu. J'avais réussi à trouver la copie, mais la copie n'était pas très belle. Et là, Potemkin sort vraiment une belle copie de ce film qui avait sorti donc, dans la collection des films noirs, Back Film. Alors que c'est plus un drame qu'un film noir, en fait. C'est plus un film vraiment, vraiment glauque, quoi, en fait. Hein. C'est un film quand même que Hopper a repris des mains d'un autre réalisateur et qu'il a tourné en 4 semaines et monté en 6 semaines. Donc, ça explique aussi peut-être la grande énergie du désespoir qui traverse ce film. Et même si le film est plus classique que celui dont on a parlé dans une émission lors d'une saison précédente qui était sortie chez Carlotta, The Last Movie, qui était vraiment un film complètement dingue, on retrouve par contre des moments de folie comme ça, comme il y avait dans The Last Movie, quoi. Il y a des moments assez incroyables où il y a des montées d'intensité, des voilà, le film a un côté brûlant, comme l'actrice d'ailleurs, qui a un côté brûlant, incandescent comme ça. Et il y a des moments où il y a des plans séquences magnifiques, puis aussi des moments terribles, quoi, hein, des moments de défonce de la mer. C'est vraiment un film étrange, mais c'est aussi un film c'est un film vraiment noir et punk, c'est un film no future, quoi, vraiment. Pour les personnages de Hopper, il y a pas de possibilité de rédemption, il y a pas de possibilité de s'en sortir, quoi. C'est un film noir jusqu'au bout. Et par contre, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que se dégage de ce film une certaine poésie. Il y a une certaine poésie. Il y a des teints bleutés, noirs comme ça, qui sont un peu étranges. Alors certains ont vu une suite directe à Easy Rider et que les hippies de l'époque étaient devenus ses parents, de cette famille dysfonctionnelle. Voilà. Moi, j'irai pas jusque-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ce sorte de joyau noir, ce film, pour moi, qui est le meilleur film de Dennis Hopper, hein, voilà, parce qu'il est moins bordélique qu'Easy Rider et The Last Movie. Il a une structure dramatique plus classique. Et ça sert le film quand même. Hein. Et puis, il y a cette actrice extraordinaire. Et ce qui est assez étonnant, et ce que je trouve hein, en tout cas réussi dans le film, enfin, le film est très bon, mais ce que je trouve vraiment plus réussi encore, c'est que le film arrive à saisir ce qu'est l'adolescence à travers la destinée de cette paumée. parce que c'est tous des paumés dans le film. C'est un film sur les paumés. Si après ça, je ne vous ai pas donné envie de voir le film, hein, la joie de vivre, quoi, bon sang, bon sang. Il arrive à saisir ce qu'est l'adolescence à travers aussi ce que ça a de négatif, l'adolescence. C'est-à-dire ce moment où on sent qu'on n'est pas vraiment à la place dans ce monde, où on sent, voilà, et cette fille, elle n'est pas à la place dans le monde dans lequel elle vit. Mais sera-t-elle à sa place quelque part ? Donc, voilà, on ne sait pas. En tout cas, c'est un grand film, Out of the Blue, un grand film de Denis Hopper, un grand film noir, vraiment un joyau noir, bon, d'une noirceur absolue, mais qu'on vous conseille quand même, parce que nous, on aime bien aussi les films où c'est triste, des fois, dans Culture Prohibée. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire, de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.